Nous aurons trois lectures donc ce matin. La première dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, les versets 6 à 13, mais je lirai à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek, car demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Puis, dans la deuxième lettre de Paul à son disciple, Timothée, au chapitre 3, les versets 14 à 17. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Et enfin dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur, ta parole est source de vérité. Donne-nous de découvrir et de nous comprendre un peu mieux dans ta vérité. Amen. Voilà les deux des trois textes que nous avons entendus ce matin et qui sont les textes du jour, qui sont lus et commentés dans toutes nos églises catholiques et protestantes dans le monde, parlent de la prière. On pourrait plutôt avoir l'impression que ça nous parle des grèves que nous vivons en ce moment dans nos transports à Londres ou des grèves que nous entendons parler ici à Paris à propos de l'essence et des stations-service. Il semblerait que le principe, si on veut arriver à quelque chose, il faut revendiquer fort et longtemps, soit un principe qui n'est pas beaucoup bougé depuis les temps bibliques. La stratégie de l'énervement et du harcèlement, l'arme du faible, cette stratégie n'est pas noble ni vraiment raffinée, mais bon, c'est peut-être le seul espoir. Alors je ne sais pas, en ce qui concerne les transports londoniens, ou encore moins ce qui va se passer à Paris pour les stations essence, en tout cas, pour cette veuve de l'Évangile, cette veuve de notre histoire, ça a marché. Mais on pourrait alors peut-être penser que la Bible a une façon bien curieuse de nous parler de la prière, une façon pas très religieuse, pas très orthodoxe de nous parler de la prière, mais d'autant plus concrète. Alors, on va essayer ensemble de voir ce que nous pouvons apprendre et retirer pour nos vies de ces deux passages qui nous parlent de la prière ce matin. Auparavant, juste deux remarques, elles concernent le contexte du passage d'Exode 17. C'est un récit qui intervient très vite après la sortie d'Égypte, après ce passage de la mer Rouge. Et les Amalécites, ce combat-là est un des tout premiers épisodes qui va arriver au peuple d'Israël juste après, donc, au début, on va dire, de son cheminement dans le désert qui va durer 40 ans. C'est le tout premier épisode de ce qui va leur arriver. Et juste après, d'ailleurs, Moïse va recevoir au Sinaï la loi. On comprend bien que ce passage se trouve donc au carrefour, à la charnière de deux moments très importants de l'Exode, la sortie, la libération de l'Égypte et de l'autre côté, la réception de la loi et des 10 commandements. Et c'est un moment et une bataille qui illustrent un point de théologie, l'importance de la prière. Et ce point est d'autant plus important qu'il se situe juste après les doutes, les premiers doutes, parce qu'il y en aura d'autres, du peuple d'Israël quant à la puissance et à la sollicitude de Dieu. Vous vous souvenez peut-être, les Hébreux avaient commencé à se plaindre des conditions, des dures conditions de leur nouvelle liberté dans le désert, la soif, la faim, l'inconfort, justement par rapport au relatif confort de l'esclavage dans la vallée bien arrosée du Nil. Et ces plaintes avaient conduit Dieu à intervenir miraculeusement déjà 3 fois pour rassasier les Israélites. Ensuite, ma seconde remarque concerne peut-être une erreur à éviter quand on aborde ce texte. Parce que pour ce passage, comme pour beaucoup d'autres dans l'Ancien Testament, il faut une lecture un peu accompagnée, éclairée, guidée. Il serait absurde de lire et de juger ce texte à la lumière d'une lecture littérale et fondamentaliste avec des esprits du XXIe siècle, parce qu'on a là le type même du récit choquant au premier degré, une guerre sainte avec une cause prétendument juste. Cette conception qui pourrait choquer nos mentalités modernes, voire notre actualité de ces derniers temps. Comme on en discutait avec les collègues de Westminster, vous savez, on se réunit entre pasteurs et prêtres de Westminster, de tout le quartier, une fois par mois pour un breakfast. Et à ce dernier breakfast, on a eu toute une conversation sur comment lire la Bible pour répondre à des questions sur ces textes difficiles de l'Ancien Testament. Et on en est venu à se dire qu'il serait bon peut-être de regarder la manière dont Dieu s'est révélé, que c'est une révélation progressive. Ça n'a pas été d'un coup d'un seul, un jour, à une époque, mais c'est une longue révélation. On sait que la Bible s'est écrite sur une période de 1000 ans. Elle nous décrit en tout cas une période de 1000 ans. Donc c'est tout au long de ces 1000 ans, une longue révélation que Dieu s'est révélée. Et il faut souvent se rappeler justement qu'il l'a fait en attrapant l'humanité là où elle en était, et qu'il a construit là-dessus, petit à petit. Il a fait patiemment l'éducation religieuse de l'humanité, mais en prenant l'humanité là où elle en était. Et il nous est trop facile peut-être de juger les siècles passés avec l'acquis actuel de la révélation. Un peu comme des adultes qui jugeraient puérile la foi de leur enfance. Vous voyez ? Cela dit, Moïse, et peut-être l'enfant que nous étions, avait probablement plus de foi dans la prière que nous autres, aujourd'hui, et c'est bien possible en tout cas. Alors, revenons maintenant à cette histoire du combat d'Israël contre les Amalécites dans le livre de l'Exode. Alors les Amalécites, au fait, c'est pas un champignon qui pousse dans le désert. Les Amalécites, c'est un peuple, une tribu, qui était nomade et qui vivait surtout au sud d'Israël, entre l'Idumée et le désert du Sinaï en Égypte. Et il faut savoir que depuis cette bataille spécifique, les Amalécites sont devenus comme l'archétype pour Israël de l'ennemi des Juifs. Les Amalécites, ils viennent de cette voie d'Édom, Ésaü, vous vous souvenez, Jacob, Ésaü. Jacob a donné Israël, et Ésaü a donné toute une lignée, dont les Amalécites, et qui sont devenus ennemis d'Israël. Alors, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, mais lorsqu'il reposait sa main, Amalek était le plus fort. On pourrait presque voir un geste magique dans cette figure de Moïse, son bâton à la main, mais plus naturellement, nous pourrions avoir une idée de ce que peut représenter l'influence de Moïse à distance sur la force de combat des Israélites quand nous pensons combien le regard de quelqu'un peut nous influencer. Si c'est un regard critique, nous nous bloquons. Si c'est un regard sympathique, encourageant, bienveillant, loyal, eh bien nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Si c'est un regard absent, alors qu'on en aurait eu besoin, alors peut-être que nous glissons vers quelque chose qui est plus de l'ordre de la perte de motivation, la perte de confiance en soi. Pensez par exemple à quelle intensité un enfant regarde ses parents alors qu'il est juste prêt sur une scène à faire du théâtre ou qu'il est à deux doigts de se lancer dans une piscine pour une quelque compétition. Ce regard des parents qu'il adresse aux parents à ce moment-là, qui est une réclamation d'être vu, d'être regardé, d'être repéré au moment où il va agir. Eh bien, le geste de Moïse, c'est un tel signe de soutien pour son peuple au combat. Mais il est aussi un geste d'appel à Dieu. Hein, ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que dans cette histoire, le soutien d'Aaron et de Hur compte aussi bien que l'effort de Moïse lui-même. Soutenir celui qui faiblit. Théologiquement, du début de la Bible à la fin, Dieu est toujours du côté du plus faible. Il le garde, le soutient, le protège, l'accompagne, le guérit, le relève. Et dans la Bible, les faibles n'ont souvent pas d'autres ressources que Dieu. Et dans la petite histoire que Jésus raconte, la pauvre veuve a trouvé un moyen à sa portée pour lutter. Pourtant, les veuves du temps de Jésus n'étaient pas vraiment aidées. Leur vie était très difficile, ils étaient comptés parmi les plus faibles des plus faibles dans la communauté, parce que ces femmes n'avaient pas de capacité civile, juridique, encore moins financière, de faire valoir leurs droits. Dans toute affaire publique, une femme, vous le savez, à cette époque-là, comme ça se fait encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, devait être représentée par un homme, un fils adulte, un frère, un parent, un père, et ne pouvait rien faire sans lui. Si elle n'avait pas, imaginons que là, une veuve qui n'avait pas par chance un fils adulte, eh bien sa vie devenait beaucoup plus compliquée. Les juges devaient alors se saisir de leurs dossiers, les présenter eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui devaient représenter cette femme seule. Et si un juge juste n'avait pas envie de faire son travail, de faire son devoir, qui allait le contraindre? Quel homme allait l'obliger à faire son devoir? Donc théoriquement, notre veuve aurait dû laisser tomber. Mais elle se cramponne à son droit et pour arriver à faire son devoir à ce juge cynique, elle choisit l'arme primitive des faibles, enfin faible avec quand même un fort caractère ici en tout cas, l'insistance, la répétition, le harcèlement, jusque peut-être le scandale public, jusqu'à ce que l'autre craque. Alors, c'est un peu inutile de développer ce point parce que vous le calculez bien, c'est un peu la stratégie de l'enfant qui est à la caisse du supermarché, qui voit des bonbons et qui va crier, qui va donner tout ce qu'il a jusqu'à ce qu'un adulte craque et lui dise « Allez, tiens, prends-le ton bonbon. » C'est cette stratégie-là. Alors, que devient la prière là-dedans? Serait-elle du même ordre? S'agirait-il alors de harceler Dieu jusqu'à ce qu'il cède à nos réclamations, à nos désirs, voire à nos caprices? Ce serait bien étrange et peu probable. Mais peut-être avons-nous regardé l'histoire à partir d'un point de vue erroné. Jésus n'a pas dit « le juge c'est Dieu et la veuve c'est les croyants ». Même si on a en général un automatisme à penser Dieu comme juge et à le détester juste derrière pour ça d'ailleurs. Mais selon les paroles de Jésus ici, en tout cas c'est une fausse piste si nous pensons ça. Il dit « il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu » et qui n'avait d'égard pour personne. Non, donc on ne peut pas lier le juge et Dieu dans cette histoire. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut comparer à quoi ? Eh bien, écoutons encore une fois le texte biblique. Il leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Autrement dit, il ne compare pas deux personnages, mais deux actions. La démarche de la veuve et la prière des croyants. Il y a sans doute raison de faire cette comparaison entre les deux actions. La prière paraît aussi faible et même peut-être aussi ridicule dans notre monde avec tous ses soucis, tous ses problèmes, tous ses défis. Qu'est-ce que la prière là-dedans ? Ça paraît très petit. La prière aussi ne dispose pas d'armes puissantes ou de moyens de coercition tels qu'elles seraient efficaces à chaque coup. Elle n'a que sa persévérance, sa confiance, son sens de la justice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, la juge arrive à ce que le juge fasse son devoir, ce pourquoi on l'a nommé juge. Elle l'a rappelé à l'honneur de son état, elle le ramène à sa vraie vocation. Et dans le fond, le juge pourrait lui être même reconnaissant de l'avoir ramené dans le droit chemin. Aussi, la prière ne s'efforce pas simplement de jouer le rapport de force, mais aussi d'aller dans le sens de la justice et de la paix. Le croyant qui prie ne le fait jamais pour ses seuls intérêts. Il doit voir le monde avec les yeux de Dieu et penser à tous. Et puis en écrivant ça, je me suis demandé, et si c'était Dieu qui comptait sur nous, sur notre prière, sur notre engagement pour agir contre l'injustice dans le monde ? Si Dieu comptait sur nous pour rappeler à leur devoir tous ceux qui ont une marge de manœuvre, tous ceux qui ont une responsabilité, tous ceux qui sont au pouvoir, tous ceux qui peuvent changer quelque chose. Et si c'était Dieu qui se reconnaissait dans la démarche de la pauvre veuve face à une humanité dure et lente à la justice ou à la compassion. Et si c'était plus difficile pour nous de faire, à la demande de Dieu, un effort pour plus de justice dans le monde que de demander à Dieu de faire quelque chose. Mais les histoires de la Bible qui parlent de la prière nous offrent souvent des récits ou des textes qui sont un peu surprenants. Il n'y a pas de définition ou d'analyse de la prière. Il n'y a que l'encouragement peut-être à s'y engager et à engager toute notre personne dans cette démarche. Avec la promesse que ça changera le cours des choses. Et pour commencer, que la prière nous changera. La prière, c'est un partage avec Dieu du souci et de la peine que nous ressentons, mais aussi de la peine et du souci que Dieu ressent pour le monde. Et dans cet échange, nous changeons. Mes amis, parce que la prière nous change, c'est précisément pour cela qu'elle change quelque chose dans le monde et que le monde peut changer. Je conclue juste peut-être avec un mot pour les jeunes parents d'une manière générale. Quand vous voyez votre enfant réclamer votre regard, alors dans une pièce de théâtre ou une compétition quelconque, ou que vous l'entendez faire son petit caprice à la caisse d'un supermarché, c'est peut-être le moment de se rappeler que Dieu nous regarde toujours avec un œil tellement bienveillant, nous, qui nous accorde tellement de choses. Et c'est peut-être un moment qu'il faut choisir pour prier pour cet enfant, dans ce moment-là. Nous rappeler que nous sommes appelés à ça, c'est un peu notre vocation, et profiter de ce moment-là, qui reviendra forcément dans nos histoires, pour prier pour eux. Même si c'est très bref comme ça. Et puisque ce texte du jour nous y invite, avec confiance et persévérance, comme la veuve de l'Évangile, prenons ensemble un engagement à un temps de prière, peut-être un peu plus régulier, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui, dans la plaine du monde, combattent contre les injustices, contre les haines, contre les inégalités qui ralentissent tellement l'expansion du royaume de Dieu sur notre terre. Pensons à eux et prions pour eux. Oui, mes amis, ensemble, prenons déjà maintenant un instant pour prier. Prions pour l'Église de Jésus-Christ. Enracine-la, Éternel, plus solidement, non seulement dans la sagesse humaine, mais surtout dans ta parole qui conduit à la paix et au salut. Prions pour ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donne-leur, Esprit divin, la sagesse de parler à temps le courage d'oser parler à contre-temps et la bonté de cœur pour le faire toujours avec douceur. Prions, même brièvement, mais souvent pour nos enfants, spécialement ceux de notre communauté, à commencer par Léo et Gabriel aujourd'hui. Oui, Éternel, notre Dieu, ces enfants que tu nous confies, donne-nous de toujours trouver les moyens de les instruire solidement, comme Timothée dans ta parole, pour que cette parole devienne sagesse de leur vie et les aide, comme nous tous, à écouter, à grandir, à aimer, à devenir, à pardonner, à avancer, à choisir, à discerner, à offrir aussi tout au long de leur chemin. C'est pour eux et pour nous tous qu'ensemble nous t'en prions, dans le nom précieux du Christ vivant. Amen.